James Graham Ballard. La cage de sable.
Épisode 2.
Au début, Bridgman se joignait souvent à leur veille nocturne. Mais, au bout de quelques nuits, il se mit à trouver plutôt repoussante, sinon carrément macabre, leur contemplation des étoiles. Ce n'était pas tant à cause du spectacle funèbre des astronautes morts, gravitant autour de la planète dans leur capsule, qu'en raison de la curieuse connivence muette entre Travis et Louise Woodward, presque comme s'ils célébraient un rite privé auquel Bridgman ne pourrait jamais être initié. Quelle qu'ait été leur motivation à l'origine, Bridgman soupçonnait parfois qu'elles avaient été supplantées par d'autres, plus personnelles. Ostensiblement, Louise observait le satellite de son mari pour garder vivante sa mémoire. Mais Bridgman devinait que les souvenirs qu'elle voulait inconsciemment perpétuer étaient ceux d'elle-même, 20 ans plus tôt, quand son mari était une célébrité et qu'elle se voyait courtisée par les rédacteurs de magazines et les reporters de la télévision. Pendant 15 ans après sa mort, Woodward avait été tué en essayant une nouvelle plateforme de lancement légère. Elle avait vécu une existence nomade, allant sans relâche dans sa petite voiture, d'un motel à l'autre, sur tout le continent, à la poursuite de l'étoile de son mari qui disparaissait dans la nuit à l'Orient. Et elle s'était enfin fixée à Cocoa Beach, en vue des portiques de lancement rouillés qui se dressaient de l'autre côté de la baie. Les motifs réels de Travis étaient probablement plus complexes. 2 ans environ après qu'ils eurent fait connaissance, il avait confié à Bridgman qu'il se sentait obligé par une dette d'honneur à monter la garde pour les astronautes morts, à cause de l'exemple de courage et de sacrifice qu'il lui avait donné dans son enfance, bien que la plupart d'entre eux aient piloté leur capsule accidentée 50 ans avant sa naissance. Et parce que, à présent qu'ils étaient pratiquement oubliés, il restait le seul à garder vive la flamme mourante de leur mémoire. Bridgman était convaincu de sa sincérité. Plus tard, cependant, en feuilletant une pile de vieux magazines trouvés dans le coffre d'une voiture qu'il avait déterrée dans le parking d'un motel, il était tombé sur une photographie de Travis en combinaison d'aluminium pressurisé et en avait appris un peu plus sur son histoire. Apparemment, Travis avait été lui-même astronaute pour un temps, ou plutôt aspirant astronaute, pilote d'essai pour une des compagnies privées qui installait des stations relais orbitales. Ses nerfs l'avaient lâché à quelques secondes du dernier stade de son compte à rebours. Moment de pure frousse imprévue qui avait coûté quelque 5 millions de dollars à la compagnie. C'était manifestement son incapacité à assumer ce manque de courage, découvert par malheur alors qu'il était étendu sur le dos dans une couchette moulée sur mesure, à 70 mètres au-dessus de la rampe de lancement, qui avait amené Travis à Canaveral, la Mecque abandonnée des premiers héros de l'astronautique. Avec tact, Bridgman avait tenté d'expliquer que nul ne lui reprocherait une défaillance nerveuse, c'était moins sa propre responsabilité que celle des examinateurs qu'il avait sélectionnés pour le vol, ou en tout cas, le résultat d'un enchaînement malheureux de questions à choix multiples ambigus, des croix dans les mauvaises cases, certaines plus lourdes à porter et plus difficiles à ouvrir que d'autres, avait plaisanté intérieurement Bridgman sardonique. Mais Travis semblait avoir trouvé sa propre réponse en ce qui le concernait. De nuit en nuit, il regardait le brillant convoi funèbre tisser sa voie dorée vers le soleil levant, diminuant l'importance de son propre échec en l'assimilant à celui, plus grand mais irréprochable, des 7 astronautes. Travis portait toujours ses cheveux coupés à l'iroquoise de rigueur chez les hommes de l'espace, se gardait en parfaite condition physique en suivant l'entraînement rigoureux qu'il avait mis en pratique avant son vol avorté. Soutenu par le mythe personnel qu'il s'était créé, il était à présent plus ou moins hors d'atteinte.
Mon cher Harry, j'ai pris la voiture et le coffre-fort. Je regrette que ça finisse comme...
Irrité, Bridgman arrêta la bande et sa récapitulation de banalités privées datant de quelque 30 ans. Pour une raison ou une autre, il semblait incapable d'accepter Travis et Louise Woodward pour ce qu'ils étaient. Il n'aimait pas ce manque de compassion, cette tendance hargneuse à exposer les motivations des autres gens et à arracher les gaines isolantes qui protégeaient leurs nerfs à vif, surtout lorsque ses propres raisons d'être à Cap Canaveral étaient si suspectes. Pourquoi était-il là, lui? Quelle faute essayait-il d'expier? Et pourquoi choisir Cocoa Beach comme rivage de contrition? Depuis 3 ans, il se posait ces questions si souvent qu'elles avaient perdu toute signification, comme un catéchisme fossile ou les auto-récriminations émoussées d'un paranoïaque. Il avait démissionné de son poste d'architecte en chef d'une grande société immobilière spatiale après que le faramineux contrat gouvernemental sur lequel comptait la firme, dessiner les plans de la première implantation urbaine sur Mars, eût été confié à un consortium rival. Secrètement, pourtant, il se rendait compte que sa démission avait signifié qu'il acceptait, inconsciemment, qu'en dépit de ses grands dons imaginatifs, il n'était pas à la hauteur de la tâche spécialisée et plus prosaïque, consistant à concevoir l'implantation. À sa table à dessin, comme partout ailleurs, il resterait toujours un terrien. Son rêve, créer une nouvelle architecture gothique de spatioports et de tours de contrôle. Être le Frank Lloyd Wright et le Le Corbusier de la première ville érigée hors de la Terre, s'évanouit à jamais, le laissant malgré tout incapable d'accepter en second choix la possibilité de faire à la chaîne les plans d'hôpitaux populaires en Équateur et de grands ensembles à Tokyo. Pendant 1 an, il avait erré sans but, puis quelques photographies en couleur des crépuscules vermillons de Cocoa Beach et un reportage sur les reclus vivant dans les motels ensevelis l'avait aiguillé sur la Floride comme une puissante boussole. Il jeta la bande dans un tiroir et se força à accepter Louise Woodward et Travis selon leurs propres termes. Une femme montant la garde près de son mari défunt et un vieil astronaute dans sa veille solitaire en mémoire de ses frères d'armes perdus. Une rafale de vent heurta la fenêtre du balcon et une fine pluie de sable tomba sur le plancher. La nuit, des tempêtes de sable battaient la plage. Des poches de chaleur isolées par le désert en voie de refroidissement se rejoignaient soudain comme des gouttes de mercure et explosaient dans le sable mousseux en tornades miniatures. À 50 mètres environ, la toux étouffée d'un puissant diesel fendit les ombres. Rapidement, Bridgman éteignit la petite lampe de bureau, heureux d'avoir économisé sur la quantité de piles mises en circuit, puis s'approcha de la fenêtre. À l'extrémité gauche du pare-sable, à moitié caché dans les ombres allongées projetées par l'hôtel, était tapis un gros véhicule chenillé à la longue coque camouflée. Une étroite passerelle d'observation avait été installée sur les pare-chocs, juste devant le mufle aplati du moteur, et deux des vigiles de la plage tendaient le cou à travers les hublots de plexiglas en direction des balcons de l'hôtel, braquant leurs jumelles d'une chambre à l'autre. Derrière eux, sous le dôme de verre de la cabine en porte-à-faux du conducteur, trois autres gardiens réglaient un projecteur. Au centre de la parabole, un minuscule grain de lumière pulsait au rythme du moteur, prêt à lancer un rayon puissant dans n'importe laquelle des chambres ouvertes. Bridgman se cacha derrière les stores lorsque les jumelles visèrent le balcon voisin, se déplacèrent vers le sien, hésitèrent et passèrent au suivant. Exaspérés par le sabotage des pistes, les gardiens s'étaient évidemment décidés pour un nouveau type de véhicule, avec leurs quatre larges chenilles. Les énormes et trapus tracteurs des sables n'auraient plus besoin des chaussées métalliques et pourraient évoluer à volonté parmi les dunes et les monticules. Bridgman regarda le véhicule reculer lentement, le grondement profond de son moteur changeant à peine, puis avancer le long de la rangée d'hôtels, son profil presque indiscernable des dunes changeantes et des mamelons. 100 mètres plus loin, au premier croisement, il tourna vers le boulevard principal, des traînées de poussière coulant des articulations métalliques comme une fine écume vaporisée. Les hommes sur la passerelle d'observation examinaient toujours l'hôtel. Bridgman était certain qu'ils avaient aperçu un reflet lumineux, ou peut-être un mouvement de Louise Woodward sur le toit. Même s'ils étaient peu disposés à quitter le véhicule et risquaient d'être contaminés par la poussière toxique, les gardiens n'hésiteraient pas si cela devait leur valoir la capture d'un batteur de grève. Au pas de course, Bridgman grimpa sur le toit par l'escalier en se baissant devant les fenêtres qui donnaient sur le boulevard. Comme un énorme crabe, l'automoteur des sables était garé sous la marquise du grand magasin d'en face. Jadis à 15 mètres du sol, la saillie de béton n'était plus qu'à 2 mètres environ du sable et l'engin était caché dans son ombre, moteur arrêté. Au moindre mouvement à l'une des fenêtres, ou au retour inattendu de Travis, les gardiens jailliraient des écoutilles et les captureraient dans leurs filets à longs manches, enroulant leur lasso autour de leur cou et de leurs chevilles. Bridgman se rappelait avoir vu un rôdeur de grève arraché à sa cachette dans un hôtel et traîné comme une énorme araignée gigotante au milieu d'un treillis de caoutchouc noir, les gardiens détournant leur visage à la bouche masquée comme des diables dans un ballet abstrait. Bridgman atteignit le toit et sortit dans la blancheur opaque du clair de lune. Penché au balcon, Louise Woodward regardait vers la mer lointaine et invisible. Au bruit léger du craquement de la porte, elle se retourna et se mit à faire les 100 pas sur le toit, apathique, son visage flottant comme un nuage. Elle portait une robe imprimée, fraîchement repassée, qu'elle avait trouvée dans une essoreuse rouillée d'une des laveries automatiques. Et les mèches de sa chevelure blonde flottaient légèrement derrière elle dans le vent.
C'était La Cage de Sable de J.J. Ballard. Épisode 2.